Le journal est présenté ce soir par Marc Potvin. Bonsoir Marc.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. Deux hommes aux mains des enquêteurs après l'attaque à l'arme blanche en fin de matinée près des anciens locaux de Charlie Hebdo. L'un d'entre eux, tout juste majeur, est soupçonné d'avoir porté les coups. Deux personnes blessées, leurs jours ne sont pas en danger. Nous revenons sur les faits dans un instant. Cette attaque suscite une vive émotion chez les politiques. J'ai le sentiment de revivre un cauchemar, déclare Manuel Valls, Premier ministre, au moment des attentats de janvier 2015. D'autres réactions à suivre dans ce journal. Nous serons également au tribunal de Paris où le procès de ces attentats de janvier 2015 continue. Florence Sturm nous racontera comment l'ambiance s'est tendue ces dernières heures. Le ministre de la Santé à Marseille, à la veille de l'entrée en vigueur de nouvelles restrictions sur place, c'est peu dire qu'elle déplaise. Des centaines de restaurateurs et cafetiers ont manifesté contre la fermeture de leurs établissements à partir de demain pour deux semaines. C'est nécessaire, leur répond Olivier Véran. Dans ce journal, nous évoquerons également les nouvelles manifestations pour le climat, notamment en Inde, et le report du carnaval de Rio pour cause d'épidémie de coronavirus. Et puis nous recevrons Jack Lang, donc le président de l'Institut du Monde Arabe, l'IMA, qui organise tout le week-end un événement pour mobiliser l'opinion près de deux mois après l'explosion meurtrière à Beyrouth. Des perquisitions en cours ce soir au domicile du principal suspect de l'attaque à l'arme blanche près des anciens locaux de Charlie Hebdo. Ce jeune homme est âgé de 18 ans, il a blessé deux personnes mais leurs vies ne sont pas en danger. Un deuxième suspect âgé de 33 ans est en garde à vue. Des vérifications sont en cours sur ses relations avec le premier interpellé. Bonsoir Diane Berger.
Bonsoir.
L'attaque a eu lieu en fin de matinée.
Vers 11h45 ce matin, rue Nicolas Appert dans le 11e arrondissement, un homme muni, semble-t-il, d'un couteau de boucher ou d'un hachoir s'attaque à deux personnes qui étaient en train de fumer. Elles sont grièvement blessées et l'assaillant prend la fuite et le lieu est hautement symbolique. Nous sommes juste devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Vers midi et demi, la police interpelle le premier suspect, un Pakistanais de 18 ans, place de la Bastille. Sur son visage, ses vêtements, des taches de sang, elles sont en cours d'analyse. Le jeune homme était connu des forces de l'ordre pour port d'armes prohibées mais pas spécialement pour radicalisation. Peu après, les autorités arrêtent un deuxième suspect, un Algérien de 33 ans, à proximité cette fois de la station de métro Richard Lenoir, tout près du lieu de l'attaque. Son implication exacte reste à déterminer, mais dans une vidéo des caméras de surveillance de la RATP, la police a aperçu les deux hommes ensemble dans les couloirs du métro. Le parquet national antiterroriste s'est saisi, car, on le rappelle, les faits ont eu lieu juste devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, à un moment symbolique, lui aussi, en plein procès des attentats de janvier 2015. Les victimes, un homme et une femme, sont deux collaborateurs de la société de production Première Ligne, celle qui réalise entre autres l'émission Cache Investigation, installée dans le même bâtiment donc que Charlie Hebdo avant. Et d'après le Premier ministre Jean Castex, les jours des blessés ne sont donc pas en danger.
Récit de Diane Berger, merci. Les politiques n'ont pas tardé à réagir à cette attaque après des anciens locaux de Charlie Hebdo. Unanimement, ils l'ont condamné, chacun exprimant son horreur. Bonsoir Antoine Marette.
Bonsoir.
Dénonciation unanime de la classe politique, mais avec des nuances.
Et l'une de ces nuances, c'est l'allusion ou non à l'islamisme. Le parquet national antiterroriste a été saisi, mais on sait encore peu de choses sur le principal suspect et ses motivations précises. Et pourtant, Marine Le Pen est assez explicite dans son interrogation. Combien de victimes aurait-on évité en contrôlant strictement notre politique d'immigration? Le porte-parole du Rassemblement national, Sébastien Chenu, affiche son soutien, je cite, aux victimes innocentes attaquées et à l'équipe de Charlie Hebdo. Et il en profite au passage pour placer en fin de tweet le nouveau slogan du RN, français, réveillez-vous. Dans la même veine, assimilant l'immigration au terrorisme, le chef des sénateurs LR, Bruno Retailleau, s'attaque, je cite, aux imams étrangers qui prêchent la haine et aux migrants et réfugiés qui ne respectent pas nos lois. De son côté, le président du Sénat, Gérard Larcher, fustige, je cite, l'islamisme politique et il appelle à défendre inlassablement la liberté de la presse et il conclut, soyons tous aux côtés des forces de sécurité. Et ce soutien aux forces de l'ordre, on le retrouve dans toute la sphère politique, à droite mais aussi à gauche. Autre récurrence, les références à Charlie Hebdo, elles sont nombreuses mais pas systématiques. Ainsi, Jean-Luc Mélenchon exprime son empathie et sa solidarité aux équipes de la maison de production Première Ligne. je cite, si utile, selon ses propres mots, pour une information libre. Rien sur Charlie Hebdo. En revanche, on se souvient que le leader de la France insoumise a récemment qualifié l'hebdomadaire satirique de bagagiste de valeurs actuelles. À l'inverse, l'eurodéputée LREM, Nathalie Loiseau, résume sa réaction à quatre mots. Plus que jamais, Charlie.
Antoine Marette du service politique de France Culture, merci à vous. Cette attaque s'est donc produite alors que se poursuit le procès des attentats de janvier 2015 au tribunal de Paris. Florence Turm, vous suivez ce procès depuis le début pour France Culture. La nouvelle a suscité l'émoi ces dernières heures.
Tension palpable lors des suspensions et à la reprise de l'audience, d'autant que la sécurité a été renforcée ces derniers jours autour de plusieurs membres de l'équipe de Charlie Hebdo, mais à aucun moment la cour n'a évoqué l'attaque de ce matin rue Nicolas Appert à Paris. Elle entend depuis le début de l'après-midi la famille des frères Kouachi, à commencer par leur veuve, qui condamne l'une et l'autre les attentats. Vous considérez que votre époux est un martyr, questionne une avocate des parties civiles. Non. Foulard et tunique rose, l'ex-femme de shérif Kouachi répond avec une certaine économie de mots. Brosse, un portrait sans relief de son mari. On avait un islam assez rigoriste, dit-elle, mais j'ai beau refaire le film maintes fois, je ne comprends pas à quel moment j'ai loupé quelque chose. Économie de détails également sur les relations qu'il entretenait avec Amédie Coulibaly, rencontrée en détention, et sa compagne, Hayat Boumediene, l'une des grandes absentes de ce procès qui aurait dû figurer sur le banc des accusés. Le matin du 7 janvier 2015, jour de l'attentat contre Charlie Hebdo, Saïd Kouachi a sonné chez son frère. Ils ont dit à leur compagne qu'ils allaient faire les soldes. Et ma vie s'est arrêtée le jour où il a décidé de sortir avec les armes, indique la femme de shérif Kouachi. J'ai perdu une partie de mon identité et pour tout le monde, je reste Madame Kouachi. Elle parle aussi de souffrance, la sienne et celle des familles de victimes. En garde à vue, la veuve de Saïd Kouachi, elle, avait refusé de s'exprimer. Les policiers avaient noté une absence d'émotion. Au juge qui l'interroge sur la perception des événements, elle indique aujourd'hui « Je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils ont fait, c'est grave et malheureux d'en arriver là ».
Florence Sturm, dont vous retrouvez les comptes rendus d'audience sur ce procès des attentats de janvier 2015 sur franceculture.fr. L'épidémie de Covid-19 est toujours dans une phase ascendante, avertissement de Santé publique France. Quasiment tous les indicateurs sont en hausse, souligne l'organisme. La semaine dernière, les passages aux urgences pour une suspicion de coronavirus ont augmenté de 21%, les hospitalisations de 34%, les nouvelles admissions en réanimation de 40%. C'est dans ce contexte que se poursuit la visite d'Olivier Véran à Marseille. Le ministre de la Santé, confronté au rejet sur place de nouvelles mesures de restriction, Mathilde Vinceneux.
Une petite foule s'est regroupée pour attendre le ministre devant l'entrée de l'hôpital de la Timone. Parmi eux, des patrons de bars, de restaurants à bout, comme Pierre.
On a déjà fait d'énormes sacrifices pour tout respecter, tout mettre dans les normes. On a perdu la moitié de nos tables. Et tout ça pour me dire, demain je vais fermer. On arrivait à peine à sortir à peine un peu la tête de l'eau et d'un coup on nous remet la tête dans l'eau. C'est inadmissible.
Alors le ministre de la Santé a tenu à faire le point sur la gravité de la situation pour expliquer ces mesures. Selon lui, il y a trop de lits occupés par des patients Covid dans les services de réanimation.
Lorsqu'un lit sur deux en réa à Marseille est occupé par des malades Covid, c'est un lit sur deux en réa à Marseille qui n'est pas disponible pour d'autres types de malades. Nous ne pouvons pas prendre ce risque.
Le ministre de la Santé a donc réaffirmé le besoin de fermer les bars et les restaurants.
Des études nous montrent qu'il y a plus de risques, hélas, de se contaminer lorsqu'on est dans un lieu clos et qu'on enlève son masque, tels que les restaurants, tels que les bars.
Olivier Véran promet des aides. Il évoque même une fermeture dimanche soir plutôt que demain, le temps d'écouler les stocks pour les restaurateurs.
Mathilde Vinceneux, la contestation face aux restrictions pour freiner cette épidémie de coronavirus ne touche pas seulement Marseille et la France. Dans le reste de l'Europe, la colère monte. Marie-Pierre Véraud, plusieurs pays européens font face à des mobilisations pour dénoncer ces restrictions.
Avec l'Allemagne en chef de file de ses contestataires, malgré une situation maîtrisée et une chancelière populaire. Dès le printemps, dans plusieurs villes, Nuremberg, Munich, Stuttgart, où tout a commencé, et Berlin, bien sûr, des milliers de manifestants se sont rassemblés. Une foule très hétéroclite, formée d'adeptes des théories du complot, d'amateurs de yoga, de familles, de militants disant défendre les libertés. Un mot très souvent partagé, ce mot de liberté dans ces rassemblements. Le mouvement n'a cessé de prendre de l'envergure d'ampleur depuis plusieurs mois outre-Rhin. Comme en France, que ce soit à Rome, Madrid ou Londres qui connaissent aussi ces rassemblements, ce qui s'exprime, c'est un mélange de doutes sur la réalité de la pandémie, de refus des décisions prises par les élites, voire une vraie défiance envers les autorités, mais aussi des inquiétudes économiques et sociales. On a ainsi vu à Madrid défiler les patrons de bars et restaurants au début du mois, et plus récemment les habitants des quartiers populaires contre des sanctions dites de classe qui épargnaient les résidents des beaux quartiers de la capitale. À Rome, on résonnait des slogans contre le port du masque à l'école ou l'obligation des vaccins. Pour conserver une adhésion minimale de la population, certains, comme la Belgique, décident d'assouplir les restrictions malgré une hausse du nombre de cas. Le masque ne sera plus systématiquement obligatoire dans les grandes villes à partir du mois prochain. La quarantaine est elle aussi réduite. Bruxelles fait comme la Suède, le pari de la responsabilité plutôt que de la contrainte.
Marie-Pierre Véro. En France, au début de la crise sanitaire, c'est Édouard Philippe qui était aux manettes. Plus tôt dans la journée, l'ex-premier ministre a raconté comment il a vécu les premières alertes, les dilemmes et les choix auxquels il a été confronté. Il s'est exprimé devant les adhérents de l'association La République des maires, réunie à Angers. Le maire du Havre a surtout martelé que le temps des aventures personnelles ou partisanes n'est pas venu. Certains lui prêtent une ambition présidentielle. Lui paye ses propos tenus lors de la convention de la droite il y a près d'un an. Réunion organisée par des proches de Marion Maréchal, ex-députée du Front National, devenue Rassemblement National. Le polémiste Éric Zemmour écope de 10 000 euros d'amende pour injures et provocations à la haine. Il avait prononcé une violente diatribe sur l'islam et l'immigration. Son avocat envisage de faire appel. L'enseigne de restaurant de grillade Courtepaille, mise en difficulté par la pandémie de Covid-19, sera reprise par son concurrent Buffalo Grill. Le tribunal de commerce d'Evry a préféré son offre à celle du groupe Bertrand. Plus de 2200 emplois sur 4000 sont repris. Greta Thunberg de retour devant le Parlement suédois aujourd'hui. Si elle portait un masque, sa pancarte est restée la même. Dessus, on pouvait lire « Grève scolaire pour le climat ». La jeune militante à l'origine du mouvement Fridays for Future entend renforcer la pression sur les personnes au pouvoir. Volonté partagée par celles et ceux qui ont ou vont manifester pour le climat aujourd'hui. En tout, plus de 3000 actions prévues partout dans le monde, y compris en Inde. Sébastien Farcy.
Masque sur le visage et pancartes colorées placées devant eux, une cinquantaine de jeunes Indiens font le sit-in devant le ministère de l'Environnement à New Delhi. La manifestation n'est pas officiellement autorisée et la police essaie de les déloger. Eux ne bougent pas, motivés. Prerna Mishra a 24 ans.
Je travaille avec les populations tribales et le gouvernement cherche à les expulser de leurs forêts car il veut en faire des plantations commerciales. Cela menace les forêts primaires ainsi que les modes de vie harmonieux de ces populations ancestrales.
Ces jeunes manifestants dérangent apparemment. En juillet, Fridays for Future a été accusé de mener des actions terroristes en Inde après avoir lancé une campagne d'envoi de mails contre une réforme du gouvernement. La plainte a été retirée mais Srijani Datta a été marquée.
Tout le monde a été perturbé, surtout les plus jeunes. Mais après, nous avons réalisé que nous avions soulevé un argument important et c'est pour cela qu'ils ont tenu à nous réprimer. C'est un début, car déranger les gens au pouvoir est le premier pas pour changer les choses. On leur fait comprendre que cela comptera pour les prochaines élections.
Ces jeunes ont d'ailleurs obtenu leur première victoire. La police les a finalement laissés manifester pendant plusieurs heures. À New Delhi, Sébastien Farcy, RFI pour France Inter.
Le Covid-19 a eu raison du prochain carnaval de Rio. Ces deux dernières semaines, il y a eu une moyenne quotidienne de 30 000 nouveaux cas au Brésil et 735 décès. L'édition 2021 de cet événement festif prévu en février est donc reportée. Rien de surprenant, Anne Vigna.
L'annonce était attendue depuis quelques semaines déjà. L'annulation du défilé des écoles de samba en février sur la célèbre avenue érigée par l'architecte Oscar Niemeyer n'est pas vraiment une surprise à Rio. Les entrepôts de la cité de la samba dans le centre de la ville devraient déjà à cette époque de l'année grouiller d'activités. Mais on n'y voit actuellement aucun artiste, seul le personnel de sécurité est présent. Les écoles de samba n'ont investi dans aucun défilé jusqu'à présent. Elles connaissent déjà des difficultés financières depuis qu'un maire évangélique et opposé au carnaval dirige la ville. Ce sont désormais les milliers d'artistes et les petites mains du carnaval qui se retrouvent sans emploi depuis le mois de juillet, quand l'activité carnavalesque commence à Rio. Le carnaval ne serait pas annulé, mais repoussé à une date ultérieure, a précisé la Ligue des écoles de samba. Tout dépend à présent de la disponibilité du vaccin pour imaginer les agglomérations que provoque tout carnaval. Les blocos, ces groupes de musiciens qui défilent dans les rues de Rio, n'ont pas encore pris de décision. Mais leur association devrait aussi annoncer l'annulation du carnaval de rue, celui qui agglomère des millions de personnes jour et nuit.
Anne Vigna, correspondante de France Culture au Brésil. C'était il y a près de deux mois, l'explosion meurtrière au port de Beyrouth. Elle a fait plus de 190 morts, 6500 blessés et ravagé des quartiers entiers de la capitale libanaise. Près de deux mois plus tard, donc, l'IMA, l'Institut du Monde Arabe, organise tout le week-end un événement pour mobiliser l'opinion française et internationale en partenariat avec France Culture. Bonsoir Jack Lang.
Bonsoir.
Vous êtes le président de l'IMA. Cet événement s'appelle Paris-Beyrouth, 24 heures pour le Liban. Plus de 60 artistes intellectuels activistes vont se succéder sur le parvis de l'Institut du Monde Arabe. À quoi ça va ressembler?
Ça ressemblera, je crois, à un moment très fort de solidarité des meilleurs artistes avec le Liban, qui aujourd'hui souffre. Hier soir, Dominique Hédé, l'écrivaine, disait lors d'un débat à l'Institut du Monde Arabe, nous sommes écrabouillés. Il faut bien comprendre que le Liban, depuis des années, subit guerre civile, conflit, abandon des services publics par un pouvoir qui ne s'intéresse qu'à empocher de l'argent pour quelques privilégiés, et s'y ajoute, en effet, vous l'avez rappelé à l'instant, cette explosion qui a détruit un très grand nombre de logements, de quartiers, et mis à la rue des dizaines de milliers d'habitants de Beyrouth. Donc, nous avons souhaité, avec cette initiative, exprimer une solidarité puissante, tout à l'heure, à partir de 19h30 jusqu'à minuit. Demain encore, avec un autre programme, les meilleurs artistes.
On va les citer, ces artistes.
Hein, si vous voulez bien.
La chanteuse Camilia Jordana, le chanteur multi-instrumentiste franco-libanais Bachar Maralifé aussi, Wajdi Mouawad,
ouvrir lui-même. Cet événement a été conçu en lien étroit avec Wajdi, qui est le directeur du Théâtre de la Colline, et par Marie Le Courtieu, qui est la directrice des actions culturelles de l'IMA.
Et que peuvent-ils faire, les artistes, pour ces Libanais qui ont du mal à se remettre de cette explosion il y a maintenant près de deux mois?
Dire que le Liban fait partie de nous-mêmes. Que le Liban, que le peuple libanais appartient à, si j'ose dire, à notre histoire. Et que nous sentons une responsabilité historique vis-à-vis de Beyrouth et des Libanais. Et puis, l'argent qui est collecté ce soir et demain soir sera reversé aux associations d'artistes. Car on n'imagine pas à quel point aussi les artistes, les créateurs se trouvent dans un dénuement absolu à Beyrouth. Sans parler des monuments qui ont été
à terre,
détruits, les musées. Et d'ailleurs, je me réjouis que l'Alliance Calif, l'association pour la protection du patrimoine, ait pu apporter de premières mesures financières pour aider à la restauration de ces monuments.
Alors Jack Lang, vous organisez cet événement pour mobiliser l'opinion française et internationale. Il y a un besoin de remobiliser. Vous avez peur qu'on oublie les Libanais?
Vous savez, je ne pense pas qu'on les oublie, mais simplement, vous le savez d'expérience, quand l'émotion est là, l'émotion du moment, alors les initiatives se soulèvent, s'expriment. Et on peut toujours craindre que les choses s'affaissent. Ce n'est pas le cas. C'est précisément pour entretenir la flamme, pour entretenir l'amitié avec le peuple libanais que nous avons imaginé cet événement, qui sera suivi par d'autres initiatives au cours des prochains mois, à l'Institut du Monde Arabe ou ailleurs. Le Liban, c'est une partie de notre âme. Il ne faut pas abandonner Beyrouth, mais au contraire, l'épauler, l'accompagner le soutenir.
Et on va reparler justement du Liban, Jack Lang, dans un instant, puisque vous restez avec nous. Cet entretien se poursuivra tout de suite avec Emmanuel Laurentin. Le temps pour moi de faire le point sur la météo. C'est d'abord cette vigilance orange qui concerne 6 départements du Sud. Risque de vent violent dans l'Aude et les Pyrénées-Orientales, la Haute-Corse et la Corse du Sud. Vigilance orange, pluie, inondation dans les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Demain matin, il pleuvra le long des frontières avec la Belgique et l'Allemagne, aussi sur les Alpes, la Bretagne, l'Aquitaine et le centre. Ailleurs, c'est un ciel gris ou bien partagé entre soleil et nuages, excepté sur le pourtour méditerranéen où là, ce sera grand soleil, 10 à 18 degrés du nord au sud. Ce journal a été réalisé avec l'aide de Julien Loquet. Prochain point sur la formation dans une heure avec Marie-Hélène Duvigneau.